Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être un acte d'équipe. C'est-à-dire que, une solitude qui rencontre une autre. C'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words have been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Encore Heureux. Elsa Morante est née à Rome en 1912. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans le quartier populaire de Testaccio. Sa mère est une institutrice juive de Modène. Son père est surveillant dans une maison de correction, sicilien et totalement impuissant. Fâcheux handicap qu'il ne veut pour rien au monde divulguer. Il choisit donc, personnellement, un compatriote employé des chemins de fer pour féconder son épouse. Il le fera à 4 reprises avec succès. Mais la mère confie très tôt ce secret à sa progéniture. Elsa en concevra une longue méfiance à l'égard des figures paternelles. Dès l'âge de 9 ans, elle se met à l'écriture. Elle rédige des contes illustrés. À 18 ans, elle décide de se consacrer entièrement à la littérature. Elle quitte donc famille et études. En 41, elle publie un premier recueil de nouvelles, « Jeux secrets », et elle épouse l'écrivain Alberto Moravia. Dès leur rencontre à Rome, le jeune couple enchaîne les disputes, ce qui ne les empêche pas de se marier 5 ans plus tard. Plutôt que des alliances, ils préfèrent s'échanger du muguet. Juif par son père, Moravia figure sur les listes de déportation des fascistes. Il fuit l'occupation allemande. Elsa le suit dans l'exil. Mais l'un et l'autre ont déjà une riche vie sentimentale. Et même ensemble, même mariés, ils vont continuer à entretenir plusieurs relations, chacun de leur côté. Elsa aura une longue liaison avec un Anglais dénommé Richard, un amour violent, charnel, clandestin, inaccompli jusqu'au bout. Pendant la période fasciste, Moravia parvient à poursuivre une carrière de romancier à succès. Parallèlement, Elsa rédige le roman qui va lui faire accéder à la notoriété, « Mensonges et sortilèges », une sorte de haut de Hurlevent situé dans un contexte urbain et sicilien. Le livre lui vaut le prestigieux prix Viareggio. Moravia devient alors davantage un compagnon rival en littérature que véritablement un amant.
Encore heureux, encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Dans les années 50, Elsa Morante collabore à la RAI et elle voyage, notamment en Espagne, ce qui lui inspirera Le Châle andalou, un recueil de nouvelles publié en 63. Elle s'éprend du cinéaste Luchino Visconti, qui vivait alors en couple avec son disciple Franco Zeffirelli. Elle se condamne, elle-même, à un amour malheureux, que le réalisateur du Guépard tentera, non sans difficulté, de canaliser en amitié. En 57, la romancière remporte le prix Strega, le Goncourt italien, grâce à son deuxième roman, L'île d'Arturo. Lauréate des deux plus grandes distinctions littéraires italiennes, elle devient l'une des romancières majeures de l'après-guerre. Elle poursuit ses voyages, notamment en Chine et en URSS. Aux États-Unis, elle se lie avec un jeune peintre homosexuel, Bill Morrow, dont elle partagera l'amour durant 3 années avec le Chilien Sergio Gallardo. En 62, dans des circonstances non élucidées, Bill Morrow tombe d'un gratte-ciel new-yorkais, ce qui plonge Elsa dans une longue période de prostration. Son couple bancal avec Alberto Moravia explose alors définitivement. Mais les deux écrivains resteront unis jusqu'à la fin par leur passion pour la littérature. Après un silence d'une décennie, Elsa publie en 1974 La Storia, roman fleuve, qui suscite la polémique et devient un best-seller mondial. La Storia est adaptée à la télévision italienne en 1986 par Luigi Comencini, avec Claudia Cardinale et Lambert Wilson. Dans l'introduction de La Storia, Elsa Morante écrit « De loin ou de proche, chaque société humaine se révèle être un champ meurtri, dans lequel un petit groupe exerce la violence et une foule la subit. Mais le fait que ce mal est là depuis toujours ne lui donne pas le droit d'exister. Par ce livre, moi qui suis née en un point d'horreur définitive, c'est-à-dire notre XXe siècle, j'ai voulu laisser un témoignage documenté de mon expérience directe, la Deuxième Guerre mondiale, en l'exposant comme un échantillon extrême et sanglant de tout le corps historique millénaire. » La Storia suit l'histoire d'une famille, celle d'Ida, une institutrice modeste vivant à Rome, et de ses deux enfants, Nino, fils d'un mari décédé, et Giuseppe, né d'un viol perpétré par un jeune soldat allemand ivre, de passage à Rome. En voici les premières pages, lues par Annie.
Un jour de janvier de l'an 1941, un soldat allemand, jouissant d'un après-midi de liberté, se trouvait seul en train de flâner dans le quartier de San Lorenzo à Rome. Il était environ 2 heures de l'après-midi, et à cette heure-là, comme d'habitude, peu de gens circulaient dans les rues. Aucun des passants, d'ailleurs, ne regardait ce soldat, car les Allemands, bien que camarades des Italiens dans la présente guerre mondiale, n'étaient pas populaires dans certaines banlieues prolétaires. Et ce soldat ne se distinguait pas des autres de la même série. Grand, blond, avec l'habituel comportement de fanatisme disciplinaire et avec, en particulier dans la position de son calot, l'expression provocante correspondante. Naturellement, pour quelqu'un qui se serait mis à l'observer, il ne lui manquait pas quelques détails caractéristiques. Par exemple, en contraste avec son allure martiale, il avait un regard désespéré. Une incroyable absence de maturité se lisait sur son visage, alors que de taille, il devait mesurer plus ou moins 1,85 m. Pour dire la vérité, la seule chose que d'instinct il était en train de chercher en ce moment par les rues de Rome, c'était un bordel. Non tant par une envie urgente et irrésistible que plutôt parce qu'il se sentait trop seul. Et il lui semblait que c'était uniquement dans un corps de femme, en se noyant dans ce nid chaud et amical, qu'il se sentirait moins seul. Mais pour un étranger de sa condition et de l'humeur farouche et sauvage qui était la sienne, il y avait peu d'espoir de découvrir un tel refuge dans les parages à cette heure-là, et sans le moindre guide. Et on ne pouvait pas non plus compter pour lui sur la chance d'une rencontre de rue occasionnelle. Car bien qu'étant devenu presque, sans s'en rendre compte, un bel adolescent, le soldat Gunther était encore plus inexpérimenté et, au fond, même timide. De temps en temps, il se défoulait en donnant des coups de pied dans les cailloux qu'il rencontrait, s'amusant peut-être, pendant un instant, à imaginer qu'il était le fameux Andreas Kupfer ou une autre de ses idoles du ballon rond. Mais immédiatement, il se rappelait son uniforme de combattant du Reich. Et avec un haussement d'épaule qui déplaçait un peu son calot sur son crâne, il reprenait son air grave. L'unique tanière qui s'offrit à lui au cours de sa pauvre chasse se vit une sorte de sous-sol en bas de quelques marches qui avait comme enseigne vin et cuisine, chez Rémo. Et se rappelant que ce jour-là, faute d'appétit, il avait fait cadeau de sa soupe à un camarade, il éprouva soudain un besoin de nourriture et il descendit à l'intérieur, caressé par une promesse de réconfort, si minime soit-il. Il savait se trouver en pays allié et il s'attendait dans cette cave accueillante, non certes aux cérémonies dues à un général, mais sûrement à une familiarité cordiale et sympathique. Au lieu de cela, aussi bien le patron que le garçon l'accueillirent avec une froideur nonchalante et méfiante et avec des coups d'œil de travers qui lui firent sur le champ passer sa faim. Et alors, au lieu de s'asseoir pour manger, restant debout au comptoir, il demanda d'un air menaçant du vin et il l'obtint, malgré une certaine réticence des deux hommes, après qu'ils se furent consultés en privé dans l'arrière-boutique. Gunther n'avait absolument rien d'un buveur, et, en tout cas, à la saveur du vin, il préférait celle de la bière. Mais pour faire preuve de virilité à l'intention du garçon et du patron, et avec des airs de plus en plus menaçants, il se fit servir, l'un après l'autre, cinq mesures d'un quart de litre, et les vida, les lampant à grands coups, tel un bandit de Sardaigne. Ensuite, il jeta violemment sur le comptoir les quelques sous qu'il avait en poche, cependant qu'une rageuse envie le prenait de flanquer en l'air le comptoir et les tables et de se comporter non plus en allié, mais en envahisseur et en assassin. Mais une légère nausée qui montait de son estomac lui interdit toute action, et d'un pas encore assez martial, il retourna à l'air libre. Le vin lui était descendu dans les jambes et monté à la tête. Et avec ce nauséabond sirocco qui soufflait dans la rue et qui, chaque fois qu'il respirait, lui soulevait le cœur, il fut pris d'une envie folle d'être à la maison, pelotonné dans son lit trop court, avec autour de lui l'odeur froide et marécageuse de la campagne et celle, tiède, du chou-fleur que sa mère faisait cuire à la cuisine. Mais grâce au vin, cette énorme nostalgie, au lieu de le torturer, le rendit gai. Pour quelqu'un qui se promène à moitié ivre, tous les miracles pendant au moins quelques minutes sont possibles. Un hélicoptère peut venir se poser devant lui pour le ramener immédiatement en Bavière, ou un message radio peut lui arriver du ciel, lui annonçant que sa permission est prolongée jusqu'à Pâques. Il fit encore quelques pas sur les trottoirs, puis il tourna au hasard et s'arrêta sur le seuil de la première porte d'immeuble qu'il trouva, avec la vague intention de se coucher là, dans le vestibule, et de dormir, peut-être sur une marche ou dans une soupente, comme pendant les fêtes costumées du carnaval, lorsqu'on fait ce qui vous chante, sans que personne s'en soucie. Il avait oublié qu'il portait un uniforme. Par l'effet d'un comique interrègne survenu dans le monde, l'extrême arbitraire des enfants usurpait à présent la loi militante du Reich. Cette loi est une farce de Gunther, et Gunther se fiche d'elle. À ce moment-là, n'importe quelle créature féminine arrivait la première sur ce seuil, et nous ne voulons pas dire une fille banale ou une petite putain de quartier, mais n'importe quelle créature du sexe féminin, une jument, une vache, une ânesse, qu'il aurait regardé d'un œil à peine humain, cette créature, il aurait été capable de l'embrasser de force, voire en se jetant à ses pieds tel un amoureux et en l'appelant Mein Mutter. Et lorsqu'un instant plus tard, il vit déboucher du coin de la rue, une locataire de l'immeuble, une petite femme d'apparence modeste mais correcte, qui rentrait alors chargée de sacs et de cabas, il n'hésita pas à lui crier « Signorina, signorina !» C'était là l'un des quatre mots d'italien qu'il connaissait. Et d'un bond, il se planta résolument devant elle, bien que ne sachant même pas ce qu'il voulait d'elle. Mais elle, en se voyant arrêtée par lui, le regarda fixement d'un œil qui n'avait plus rien d'humain, comme devant la matérialisation indiscutable de l'horreur.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux. En 1982, Elsa Morante reçoit en France le prix Médicis étranger pour Ara Coeli, son dernier roman. Elle est une icône de la littérature, libre, imaginative, intransigeante. Les plus grands artistes de son temps, Pasolini, Visconti, l'admirent sans réserve. Figure des intellectuels italiens de l'après-guerre jusqu'aux années 80, elle est invitée dans le monde entier. Au summum de sa vie d'écrivaine. Et pourtant, elle s'isole peu à peu. Sa renommée est un trompe-l'œil. Elle cache une perte d'inspiration et le début de sa déchéance. Malade des suites d'une fracture du fémur, Elsa Morante tente de se suicider en 83. Sa mort, deux ans plus tard, le 25 novembre 85, suivie par celle de Moravia, cinq ans après, marque la fin d'une formidable époque pour l'Italie des lettres. Elsa ne pensait pas à la postérité. Elle espérait qu'aucun biographe ne s'intéresserait à elle. Car, disait-elle, la biographie
d'un écrivain n'est qu'une suite de potins, lesquels, quelle qu'en soit la cible, m'offensent. Écoutons maintenant la voix d'Elsa.
Tutto con questo libro, scrivere una storia che somigli un poco in certe cose a Robinson Crusoe, cioè la storia di un ragazzo che scopre per la prima volta tutte le cose più grandi, più belle, anche quelle brutte della vita. Per lui tutto è avventura, è stupore, è bellezza, perché vede le cose per la prima volta e non ha nessuna esperienza né del bene né del male. E siccome vive in una delle isole più belle che io abbia mai conosciuto, che è l'isola di Procida, tutto quello che gli cade sotto gli occhi è di una particolare bellezza.
Chers auditeurs, merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Encore Heureux sur notre site en podcast. Pour mémoire, en 2019, nous avons dressé les portraits de Alberto Moravia, Carl Ove Nosgaard, Joyce Carol Oates, Sirius Ved, Herman Melville, Marguerite Yourcenar et Stephen King. Excellente année 2020 sur Radio B, bien sûr. À très bientôt.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être un acte d'équipe. C'est-à-dire qu'une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.